conférence privée du noviciat par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 1er avril 1993.
Basile, quand il traite de la virginité, je pense à Basile, c'est... Saint Basile est à l'Orient ce que Saint Benoît est à l'Occident. Non, n'oubliez jamais ça. C'est-à-dire, au fond, c'est le père des moines. Comme nous devons être attentifs à l'Orient et à l'Occident. C'est intéressant au point de vue religieux de regarder le point de vue de la vie monastique en Orient, qui du reste ne s'est pas du tout développé comme en Occident. Et ce que me disait un moine roumain qui avait été chassé plus ou moins, qui était parti de Roumanie du temps de Staline. Qui était passé au Saujoire et que j'avais rencontré à ce moment-là, parce qu'il y avait des amis communs. Et il me disait, ça m'intéresse de voir ce que c'est que la vie religieuse apostolique de Saint Dominique et de Saint François, puisque c'est né après la séparation. Et donc, nous ignorons cela. Et moi, je voudrais connaître et profiter, si vous voulez, d'être expulsé parce qu'il aurait été arrêté par la Gestapo. Il avait dit qu'il y avait un petit règlement supplémentaire du temps de Staline pour la vie monastique. On demandait à tous les moines, avant de se coucher le soir, de préparer leur valise. Petite valise de ce qu'ils devaient emporter s'ils étaient arrêtés la nuit. Puisqu'on les réveillait à 2 heures, on avait calculé que le réveil à 2 heures, c'est le réveil le plus difficile de retrouver tout de suite sa lucidité. Ça met un peu plus de temps à 2 heures, paraît-il. La nuit chez les Dominicains était à 2 heures. C'est pour ça que j'ai retenu, parce que c'est assez curieux. C'est à ce moment-là, c'est le plus difficile de retrouver. Alors, si on est réveillé, on vous laisse 10 minutes. Puis on n'emporte pas du tout ce qu'il faut. Alors, c'était recommandé. Le prix l'abbé recommandé le soir d'avoir toujours sa valise prête. C'est beau comme spiritualité. Vous demandez ça tous les soirs dans une petite valise et vous emportez là ce qui est nécessaire pour partir 6 mois, 1 an, jusqu'à l'éternité. La petite valise éternelle. Saint Basile dit à propos de l'esprit de virginité que l'esprit de virginité transforme toute notre sensibilité. Que l'esprit de virginité doit transformer tout notre état de vie. Et c'est vrai, c'est un état de vie. Consécration de notre âme et notre corps. Donc tout notre conditionnement par le point de vue du corps. Et c'est tout le conditionnement qui est modifié par l'esprit de virginité. Et Saint Basile a des pages très belles là-dessus. Très très belle. Parce qu'il parle de chacun des sens, voir comment chacun des sens demande cet esprit de virginité et transformé par cet esprit de virginité le regard, l'ouïe, le toucher, donc le corps. Alors, c'est important pour nous d'essayer de comprendre comment l'esprit de virginité correspond à nous, qui correspond pour nous et en nous, à l'appel de la jalousie du Père sur son Fils bien-aimé. C'est la jalousie du Père sur son Fils bien-aimé. C'est tout l'amour du Père pour son Fils bien-aimé. Il est dit simplement dans Saint Jean que le Verbe incarné est in sino patris. Et c'est très significatif, c'est au fond cela que doit nous faire vivre l'esprit de virginité, demeurer in sino patris. Et saint Thomas commente in sino patris, cela c'est demeurer dans le secret du Père, c'est-à-dire faire qu'il y a entre le Père et son Fils bien-aimé nous-mêmes en tant que nous consacrons totalement à Dieu un lien et une relation qui fait qu'on est saisi par l'amour du Père d'une façon unique. Et c'est cet amour du Père qui nous saisit d'une manière unique pour nous mettre dans sa solitude la plus profonde. Oui, la solitude du Père. C'est très beau, ça. C'est la solitude du Fils dont nous devons vivre dans un esprit de virginité. Et c'est au fond très fort ce que saint Bruno a senti et a vécu. Cette jalousie de Dieu, alors qu'il traduit par la solitude. Saint Bruno est farouche pour la solitude, vous savez bien. Ce que Bethléem essaie de revivre, cette solitude. Alors nous, nous devons comprendre ce que Catherine de Sienne dit. Je crois que c'est très important. La solitude, on peut la vivre matériellement. Pour en donner le témoignage, on peut la vivre divinement, au plus intime de nous-mêmes. C'est toujours cet équilibre très délicat entre l'exigence de la solitude la plus totale et la charité fraternelle. La vie commune, c'est la charité fraternelle. Et la contemplation, c'est l'appel à la solitude. Et l'esprit de virginité nous fait vivre cette contemplation selon ce mode le plus fort qui soit, tant du côté de Dieu que du côté de la charité fraternelle. Donc, comprenons que l'esprit de virginité, c'est la marque divine de la jalousie du Père sur sa petite enfant bien-aimée, sur son Fils bien-aimé, qui est in sino patris. Être dans le sein du Père, c'est accepter cet enveloppement divin. Le Père nous garde comme la prunelle de son œil. Il y a un lien entre les deux. Il faut découvrir, qu'il faut saisir, qu'est-ce que ça doit être pour nous. C'est quelque chose de tout à fait divin. Ça peut se matérialiser, c'est sûr. Et ça doit se matérialiser pour certains. C'est ce que saint Bruno a senti. Je crois que saint Dominique avait un esprit de virginité très semblable à celui de saint Bruno. Très. Et vécu d'une manière toute différente. Et quand saint Dominique, à la fin de sa vie, s'accuse devant ses frères d'avoir aimé plus de parler Il faut bien comprendre que la grâce ne détruit pas la nature. Et donc, cette jalousie de Dieu sur nous nous demande d'être plus attentifs. Je dirais cela au point de vue théologique. Plus attentifs à la connaturalité que nous pouvons avoir de parler à des jeunes que de parler à des vieillards. Et cette connaturalité fait qu'il y a une joie plus grande. Et l'esprit de virginité réclame que cette joie soit totalement offerte à Dieu. L'esprit de virginité ne demande pas de supprimer cette joie, de supprimer cette connaturalité, mais que tout soit totalement offert à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne s'y arrête pas et qu'on l'offre à Dieu. Alors, on peut essayer de comprendre cela, parce que c'est important concrètement dans notre vie. Vous voyez, la différence entre le stoïcisme et l'esprit de virginité. Le stoïcisme consisterait à supprimer toute connaturalité et donc toute passion. Je vois qu'il y a une sensibilité qui s'éveille plus facilement en face de la présence de quelqu'un qui est jeune que de quelqu'un qui est plus âgé. Saint Thomas exprime ça d'une manière très très belle. À propos de Saint Jean, en disant que Saint Jean implique cet esprit de jeunesse, et Saint Thomas ajoute, on exprime plus facilement son affection à des jeunes qu'à des gens plus âgés. Mais ne dis pas que c'est une faute d'exprimer son affection. Oui, tout dépend comment on l'exprime. Un petit enfant, Jésus les embrassait. Et il exprimait sa tendresse pour les petits. Et si on n'exprime pas sa tendresse pour les petits, je crois qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas au point. C'est normal d'exprimer sa tendresse pour les petits enfants. Ils en ont besoin. Et nous-mêmes, pour rester jeunes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On voit très bien cela. Il y a une espèce de jeunesse véritable, jeunesse divine, véritable, qui est le fruit du don d'intelligence, la béatitude des cœurs purs. In sino patris, et dans le sein du Père. Le cœur de Jésus dans le sein du Père, in sino patris, et toute cette liberté et cette sensibilité du cœur de Jésus est dans le sein du Père. Et saint Thomas explique, il s'exprime par là d'une manière plus profondément divine. Difficile à expliquer. Je crois que ça nous aide à comprendre que l'esprit de virginité doit transformer du dedans non seulement notre contemplation qui doit être plus limpide sans aucun retour sur nous. On donne tout, on brûle tout. On accepte que tout soit brûlé et donc on ne garde rien. Esprit de virginité dans la contemplation, esprit de virginité dans notre soif de contemplation. Une soif de pauvre, sachant qu'on n'a aucun droit à la contemplation. Et donc, on la désire en pauvre, en mendiant. On la vit en mendiant. Et non pas avec amertume. Les raisons pour moi, c'est sec, 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 sec. Alors on n'est plus. plein d'amertume parce que c'est sec, sec, et on a presque l'impression de se dire, Dieu pourrait quand même bien nous donner un tout petit peu de joie intérieure. Je suis là pour lui. Et lui a l'air de m'ignorer complètement. Et le manque d'esprit de virginité. Parce qu'on a l'impression que du fait qu'on répond à Dieu, on a des droits sur Dieu. Aucun droit. On reste des mendiants de l'amour divin. Et on accepte cet esprit de pauvreté dans un esprit de virginité. Vous voyez, la soif de la contemplation vécue ici sur la terre dans une très grande aridité. Parce que si, à cause de cette aridité spirituelle dans l'horizon, on devient grincheux vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses sœurs, c'est pas drôle du tout. Pour la sœur et pour les frères. Et c'est un manque d'esprit de virginité. Parce qu'on est comme frustré. Et l'esprit de virginité nous fait comprendre que tout est donné gratuitement. Et que tout est vécu gratuitement. Dans ce lien d'amour. Et on doit savoir que si Dieu nous fait vivre dans cette aridité, dans cette sécheresse, c'est Dieu qui nous éduque profondément. Et c'est Dieu qui veut que nous arrivions nous aussi à cette pauvreté très radicale. Et de croire que dans cette pauvreté, dans cette solitude dans laquelle Dieu nous met, il y a une unité très profonde et très divine avec l'Esprit Saint. Quelque chose de très grand qui est vécu divinement. Et qui demande d'être vécu divinement. Cet esprit de virginité va surtout s'exercer dans la charité fraternelle à l'égard de tout exercice de la charité fraternelle s'incarnant dans une amitié humaine. La charité fraternelle est source d'amitié humaine, de véritable amitié humaine. Il faut toujours être très attentif aux amitiés humaines acquises en dehors de la charité. Les amitiés humaines acquises à partir de la charité fraternelle. C'est très différent. Oui, les amitiés humaines acquises en dehors de la charité humaine demandent de grandes purifications. Vous voyez, et c'est toutes les purifications qui existent par rapport à la famille. Par rapport à la famille, c'est antérieur à la charité fraternelle. Tandis qu'à l'intérieur de notre vie religieuse, qui implique l'exercice de la charité fraternelle avec une grande intensité, se nouent des amitiés humaines. Ça, c'est évident. Très belles, très grandes. Plus grandes que n'importe quelle autre amitié. Parce que le climat est plus pur, plus limpide, plus intense. Mais il faut comprendre que cette charité, que cette amitié humaine qui éclot à partir de la charité fraternelle va de fait réclamer une très grande pureté de notre part. C'est-à-dire que cette amitié humaine qui naît dans la charité divine réclame une très grande limpidité. La limpidité de l'amour divin. Une limpidité qui se fait insister sur ce point, qu'on n'a aucun droit sur l'ami. Le jus amicitiae, le droit de l'ami, qui est si fort dans une amitié humaine, qui est si grand dans une amitié humaine, vous voyez, d'une manière réciproque, ça s'exerce dans la réciprocité. Donnant. Hein, et c'est très exigeant dans l'amitié humaine, qui n'est qu'une amitié humaine, et radicalement purifiée avec l'esprit de virginité, venant purifier notre cœur à l'égard du Christ et à l'égard du Père. Cette charité fraternelle demande de s'exercer donc dans la pauvreté, pour que ce ne soit pas un fardeau, pour que ce ne soit pas un frein qui risque de nous replier sur nous-mêmes et de nous empêcher d'avancer plus loin. Ce que Sainte Thérèse appelle, vous savez, le petit oiseau qui a un fil à la patte, c'est très joli, c'est la comparaison de Sainte Thérèse, la grande Sainte Thérèse, petit oiseau qui a un fil à la patte. Le petit oiseau qui a un fil à la patte, faites pas l'expérience. Dans votre cellule, il y a un petit oiseau qui a un fil à la patte, et le bout, du fil est dans de la glu. Donc le petit oiseau ne peut pas s'envoler. Et il vole toujours à la même hauteur, en tournant, en tournant, en tournant. Il voit très bien. Alors, Sainte Thérèse compare ça à notre amour à l'égard de Dieu, qui demande cette limpidité absolue et cette virginité du cœur. Mais s'il y a un lien trop humain, je dis bien un lien trop humain qui n'est pas mauvais, mais qui est trop humain tout simplement, qui est le lien que les personnes du monde auraient. S'il y a un lien trop humain, s'il y a une attache trop grande, alors l'amitié humaine qui est éclos à l'intérieur de la charité fraternelle devient un obstacle à l'exercice divin de la charité divine. Et arrête. Et c'est vraiment, la comparaison est magnifique, comme le petit oiseau qui a vu la patte. Alors, il s'efforce de voler, mais jamais plus haut que la longueur du fil. Jamais plus haut que ce que représente cette amitié humaine. Et donc, ça nous empêche d'entrer vraiment dans la contemplation. Et ordinairement, ce lien d'amitié devient un obstacle le jour où, à travers cette amitié, on prend des droits sur l'ami. Ce qui n'est jamais bon, même pour l'amour d'amitié. Et c'est là où on voit combien la grâce purifie la nature, mais ne la détruit pas. Cette exigence de l'esprit de virginité sur l'amour d'amitié permet à l'amour d'amitié d'être plus lui-même. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Psychologiquement, on a l'impression que ça diminue. Et profondément, ça lui permet d'être beaucoup plus intense. Et là, on sait si bien la différence du point de vue du psychologue et le point de vue du saint. Pour le psychologue, il est bien évident que la vie religieuse et donc que l'esprit de virginité qui clôt dans cette vie religieuse devient une limite à l'exercice de l'amour d'amitié. Vu de l'extérieur et regardé d'un point de vue psychologique, c'est parfaitement juste. Vu de l'intérieur de l'amour, d'amitié. C'est juste l'inverse. Ça, je crois que c'est capital de le comprendre. Pour ne pas vous laisser impressionner par des jugements psychologiques que vous rencontrerez dès que vous sortez de la porte de clôture. Et immédiatement. Et ceci nous permet alors de mieux comprendre comment cet esprit de virginité, loin de diminuer notre capacité d'aimer, intime du cœur. Vous voyez tout. j'espère. Dès que vous faites la distinction entre extension et intensité, vous voyez tout de suite. L'extension, c'est que, de fait, c'est vrai. La vie religieuse va empêcher de voir son ami autant qu'on le voudrait. Au noviciat, c'est net. Quand on vous dit oui, l'amour d'amitié, très bien, mais restez absolument obéissant à votre règlement. C'est-à-dire qu'au fond, bah oui, on se verra quand on pourra se voir. Et je dis bien, on verra quand on pourra se voir. Pas du tout. On ne réglera pas ça par l'amitié lui-même, alors que deux amis. Alors on se revoit quand? Alors on dit le plus vite possible, le plus vite possible. Tout à fait d'accord. Et on regarde. Demain, très bien. Parfait. Ça, c'est l'exigence de l'amour d'amitié au niveau psychologique. Parce qu'il y a un phénomène de répétition. Mais si on est religieux, ah non, on ne peut pas permettre, dire ah non. Il y aura peut-être tous les 8 jours, tous les 15 jours, tous les mois. Possible. Alors on trouve c'est long. Mais la séparation, c'est-à-dire la négation de l'union effective, la séparation a du bon. Et la séparation est faite pour intensifier et faire que toute l'extension qui n'existe pas est pour l'intériorité plus grande. Quand je parle d'intensité, c'est l'intériorité plus grande. Alors, à ce moment-là, il y a vraiment une intériorité beaucoup plus forte et toute divine. Quelque chose qui est magnifique. Mais c'est l'amour divin qui creuse le cœur de l'ami et qui permet de l'aimer dans le regard de Dieu. On ne peut pas aller plus loin. Dans la charité, on s'aime dans le regard de Dieu. Et donc c'est un amour éternel. Et c'est un amour... Il y a une pénétration unique. Je t'aime comme le Christ crucifié t'a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et dans le Christ, on donne sa vie pour son ami. Réellement. Dans une intention divine. Et selon une union affective divine. C'est formidable, ça. C'est quelque chose... Si on le voyait, si on le vivait, c'est extraordinaire. Comme ça ferait des, ça ferait une unité de communauté merveilleuse, puisque l'ami de notre ami est notre ami. Alors vous voyez le tissu qui se fait, tandis qu'ils s'en s'aiment au point de vue psychologique, c'est la source de toutes les jalousies. Ça c'est sûr, le conditionnement. On se juge extérieurement. Et on juge en fonction de cela. Donc en fonction de l'extension. Du temps. Le temps, c'est l'extension. La durée. C'est pas la qualité. Quand on s'aime sous l'emprise de la charité, on s'aime humainement, mais assumé par la sagesse de Dieu, dans un regard divin et dans un don divin. Mais évidemment, on n'a plus aucun droit sur son ami. Tout est remis à Dieu. Hey. rayonnante, une pauvreté qui allège tout et qui fait qu'il n'y a plus rien de collant dans cette amitié. On s'aime comme Dieu nous aime, dans la lumière de Dieu et dans la force de Dieu et dans le regard et l'intensité d'amour de Dieu. C'est cela vers le vers quoi nous devons tendre dans la charité fraternelle. On y tend. Et c'est bon de voir justement combien ce regard va supprimer toute espèce de jalousie. C'est que Dieu, que la jalousie est toujours quantitative. Elle matérialise tout. Elle provient du point de vue matériel et elle matérialise tout. Alors, on n'en peut rien avoir des tentations de jalousie. Ce n'est pas la jalousie. Distinguons bien, c'est des tentations de jalousie. Comprendre les tentations de jalousie et savoir qu'on est, qu'il y a une certaine présence de ces tentations en nous, il vaut mieux le savoir que de ne pas le savoir. Celui qui dit qu'il n'a jamais été tenté de jalousie, je crains qu'il ait tellement tenté qu'il s'en aperçoit plus. Et ça arrive. C'est le chien qui est en train de grogner, de saisir son dos, c'est de vouloir le manger, qui le croque dans tous les sens. Et à ce moment-là, il n'a plus aucune jalousie, il n'en voit plus. Il est heureux. Tandis que souffrir des tentations de jalousie est une chose bonne. C'est Dieu qui permet cela pour purifier notre regard, notre sensibilité et notre affection profonde. Ça purifie tout. Et ça nous rend humbles. On est capable d'être sujet des tentations de jalousie. On n'en peut rien, parce que ce n'est pas nous qui l'avons suscité. C'est très encombrant. C'est très gênant. Donc on n'a pas du tout suscité, mais c'est Dieu qui permet cela. Et c'est du côté du conditionnement, toujours, toujours. C'est très psychologique, hein, la jalousie. Très, très. Les psychologues aiment ça. Aiment ça, vous voyez, du tout parce qu'ils veulent s'installer dedans. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est parce que c'est assez facile à comprendre. C'est assez gros, si vous voulez. Vous voyez de la jalousie. Être jaloux de son frère, de celui qui est tout proche de nous, parce qu'on est jaloux vis-à-vis de ceux qui sont proches de nous. Donc, voyons bien comment la charité divine assume, transforme, informe l'amour d'amitié. D'amitié véritable. Quand vous êtes en face d'un amour d'amitié qui est fou, alors c'est autre chose. La charité ne peut pas pénétrer dedans puisque cet amour n'est pas juste. Et là, Dieu seul peut juger. Dieu seul peut juger. Et puis le patient en face de Dieu, les personnes donc de l'extérieur. Et c'est le cas tragique des gens remariés après le divorce. C'est vraiment le cas tragique. On est quelquefois en face de personnes qui en font disent en toute vérité qu'avant leur divorce, ça a été l'enfer. Après le mariage, ils ne pouvaient pas être à l'église. C'est quelque chose du ciel. ce qui peut montrer combien l'amour d'amitié demande d'être complètement rajeuni, divinement rajeuni, par la charité divine. Et combien la charité divine peut lui donner une physionomie tout autre, toute différente. L'esprit de virginité agrandit notre capacité d'aimer le prochain et agrandit notre capacité d'aimer l'ami et de l'aimer d'une manière beaucoup plus profonde, puisqu'on aime en lui ce que Dieu aime, ce que Jésus aime, et on cherche vraiment à n'aimer en lui que ce que Jésus aime, et on exclut tout le reste pour avoir un regard de plus en plus pénétrant et de plus en plus profond. Vous voyez bien que là, on assiste à quelque chose de très grand. C'est les amitiés des saints. L'amour de Saint François et de Sainte-Claire. L'amour de Saint François de Sales. Et ainsi de suite. L'amour de Marie pour Jean. Et de Jean pour Marie. C'est un amour qui a été divin. Puisque c'est Jésus qui le veut. Voilà ton fils, voilà ta mère. C'est Jésus qui le fait. Et cet amour divin a été source d'un amour divin merveilleux. Amour filial de Jean pour Marie. Il faut souvent se rappeler ça, parce que c'est tellement grand et tellement beau. Et nous devons demander, nous, là, on peut le considérer comme un modèle, que toutes nos amitiés soient comme cela, pour que l'humain soit appauvri et soit transformé par l'amour divin. Ceci, ça ne se fait pas d'un seul coup, hein. Sauf Dieu le peut. Sauf une invasion, une mission spéciale de l'Esprit Saint. Mais normalement, ça met du temps. Ça met du temps, ça met même beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps parce que l'amour d'amitié, c'est toujours très long. Et là, il s'agit d'un cas très éminent d'amour d'amitié. Cet esprit de virginité doit transformer toute notre recherche de la vérité. Alors là aussi, c'est important de voir ça. Comment cet esprit de virginité doit transformer toute notre amour de la recherche de la vérité. livrer le meilleur de notre cœur à ceux que nous aimons d'un amour d'amitié. Non, ça ne comprendra pas, je ferai ça demain, attendons un peu, et ainsi de suite, toutes les excuses possibles, qui fait qu'on n'exclut pas expressément, mais en réalité on exclut.
De la vérité pour
par la charité fraternelle.